Congrès SFRE, l'épaule du sportif, article signé Julie Devilliers, DEVI, DELERS, dans le kiné actualité du jeudi 10 juillet 2008. En mai dernier, la Société française de rééducation de l'épaule, SFRE, organisait son second congrès à la Grande Motte dans l'Hérault. Une pléiade de spécialistes, rééducateurs et médecins est intervenue sur le thème de l'épaule du sportif et du syndrome de la traversée thoraco-brachiale. L'occasion d'un tour d'horizon des pathologies, sports et nouveautés en termes de rééducation de l'épaule, dont voici une sélection. Nouvelle approche thérapeutique du syndrome de la traversée thoraco-brachiale, par Thierry Marc, kinésithérapeute à Montpellier, dans l'Hérault, et président de la SFRE. Le syndrome de la traversée thoraco-brachiale, TTB, regroupe sous une seule dénomination un ensemble de signes et de symptômes causés par la compression des vaisseaux sous-clavier du plexus brachial dans une zone se situant entre la colonne cervicale, le médiastin et le bord inférieur du grand pectoral. Classiquement, trois zones de compression étaient décrites. Le défilé interscalénique, la pince costoclaviculaire et le tunnel du petit pectoral. En 1980, les travaux de Poitevin, P-O-I-T-E-V-I-N, remettent en question l'anatomie de cette traversée, la validité des tests cliniques et la rééducation. En effet, aux trois défilés existants, le chirurgien argentin ajoute une zone de compression à la sortie du thorax par l'appareil suspenseur de la plèvre, un défilé clavipectorale, où le bord inférieur tranchant du ligament coraco-claviculaire interne agresse la veine sous-clavière, et une zone de compression en avant de la tête humérale qui, le bras placé en abduction rétropulsion, comprime l'artère axillaire et le plexus brachial. Il faut souvent une décompensation pour que le patient prenne conscience de son problème. Cette dernière passe souvent par un dysfonctionnement de l'articulation gléno-humérale qui engendre un changement de position de la scapula et une hyperactivité de ses muscles mobilisateurs. Ces tensions se compensent par une sursollicitation des scalènes, une raideur cervicale et progressivement une perte des plans de glissement des nerfs. Rééducation de la TTB. Selon la compression, les sujets se plaignent de signes nerveux pouvant aller de simple paresthésie à un déficit moteur avec amyotrophie. En cas de compression artérielle, ils peuvent ressentir douleur, fatigabilité ou crampes. Si la compression est veineuse, ils peuvent présenter un œdème et décrire une lourdeur du membre supérieur. Le protocole de Pitt, longtemps utilisé en rééducation, ne semble dès lors plus approprié, puisque aucun examen clinique ou paraclinique ne permet de déterminer avec certitude la zone comprimée. Il ne s'agit pas de traiter une zone, mais l'ensemble des régions. Thierry Marc propose ainsi une nouvelle approche thérapeutique. Dans celle-ci, le kinésithérapeute s'attache à récupérer la mobilité de la glue numérale et de la ceinture scapulaire. Le protocole CGE, concept global d'épaule, est utilisé pour récupérer les amplitudes. Il permet la décompression de l'espace sous-acromial et la sédation des douleurs associées. Le rééducateur détend ensuite les muscles du rachis cervical par une technique inspirée de Jones. Mise en position courte du muscle à détendre, maintenue 10 secondes, retour en position d'allongement sur 20 secondes, cassant ainsi le réflexe myotatique, et repos du patient en décubitus dorsal pendant 20 minutes. Le praticien ne néglige pas l'éducation ventilatoire dans le but d'apprendre au patient à solliciter à minima ses inspirateurs accessoires. Les douleurs disparues, une tonification musculaire spécifique pourra être envisagée. Un an après l'arrêt du traitement, une étude réalisée par les instigateurs du programme montre 80% de résultats stables. Épaule et pratique du judo par Arnaud Constantinides, kinésithérapeute responsable du pôle Espoir Judo Montpellier et praticien au centre Orthosport dans l'Hérault. Constantinides, s'écrit C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-I-D-E-S. Dans l'étude menée la saison dernière au Pôle Espoir de Montpellier, 20% des blessures des judokas concernaient le complexe de l'épaule, au premier rang les luxations antérieures. Cette fréquence élevée s'explique par des raisonnements inhérents à la personne ainsi que par la pratique du judo. Parmi les facteurs intrinsèques, les sports présentant une raideur passive d'épaule finissent par ne plus supporter des contraintes infligées sur leur articulation et se blessent. De leur côté, les sujets hyperlaxes affichent aussi les risques. En effet, leur système proprioceptif défaillant déclenche un réflexe de protection articulaire trop lent, autorisant le traumatisme. Le déséquilibre musculaire et l'attitude posturale, enfin, jouent aussi un rôle. Ils sont souvent majorés par la pratique du judo, sport latéralisé de fermeture, où rotateurs médiaux et petits pectoraux sont favorisés. L'hypertonie antérieure ainsi créée déporte la scapula sur le côté, aboutissant à une attitude d'enraidissement de la capsule postérieure. La pratique du judo développe aussi des facteurs de risque pour l'épaule. Parmi eux, la prise de garde ou kumikata est une phase très travaillée. L'objectif est de dominer l'adversaire en l'écrasant avec le poids de son corps, transmis par le bras, pour l'amener vers les prises souhaitées. La fatigue rapide générée par la position conduit à une bascule antérieure du moignon de l'épaule qui entraîne la scapula dans un glissement vers l'extérieur. Le judoka repose ainsi sur son auban antérieur et distend progressivement la zone de faiblesse entre le subscapulaire et le supraépineux, qui constitue l'intervalle des rotateurs. Cette zone, ainsi élargie, offre alors une voie de passage antérieure pour la tête humérale. À l'entraînement, l'ukikomi est la répétition du début de certains mouvements. Le but, chercher le bon placement et développer des schémas moteurs. Dans cet exercice, la fatigue des fixateurs de scapula entraîne, une fois encore, celle-ci en avant, distendant le plan capsulaire antérieur. L'apprentissage des chutes, premier enseignement au judo, se révèle aussi traumatisant pour l'épaule. Le judoka s'exerce à chuter en frappant le sol avec le bras de manière à augmenter la surface d'impact. Ce mouvement, qui certes permet de vaincre la peur de tomber, provoque toutefois par la réaction du sol la projection de la tête humérale en avant dans l'intervalle des rotateurs. Le combat, enfin, à une intensité plus soutenue que les entraînements, la luxation d'épaule favorisée au préalable par les entraînements survient souvent dans ce contexte. Ainsi, la prévention, pièce maîtresse de la prise en charge, doit prévenir les attitudes à risque, apprendre au judoka à se connaître et à écouter son corps. Elle doit mener un enseignement de qualité dès le plus jeune âge, un renforcement musculaire fonctionnel et la mise en place d'un suivi spécifique comprenant un bilan articulaire, musculaire et ligamentaire. Ce dernier permettra d'ajuster la préparation physique souvent inadaptée. Rééducation post-opératoire de l'instabilité d'épaule par Olivier Dupin, DUPIN, kinésithérapeute à la clinique Saint-Martin de Pessac en Gironde, service de chirurgie spécialisé du membre supérieur. La problématique de la stabilité de l'épaule dépend d'une relation complexe entre ces différents facteurs. Ainsi, une épaule instable présente des lésions anatomiques importantes de ses éléments passifs, 87% de lésions de bourrelet, 79% de lésions de la capsule antérieure, comme de ses éléments actifs, 40% de lésions de coiffe. Les chirurgies de stabilisation, qu'elles soient réalisées par butée coracoïdienne, triple verrouillage ou par capsulographie, visent à rétablir au mieux les éléments passifs de la stabilité gléno-humérale. La rééducation qui s'ensuit tend, quant à elle, à restaurer les éléments actifs, le sens proprioceptif et l'endurance. Elle ne présente pas de différence significative d'une chirurgie à l'autre. Trois phases de rééducation. La rééducation peut s'envisager schématiquement en trois phases. La première, entre 0 et 45 jours post-opératoire, consiste à récupérer en passif les amplitudes du complexe de l'épaule. La seconde, de 45 à 90 jours, s'attache à tonifier la coiffe des rotateurs. En effet, cette dernière joue un rôle fondamental de centrage de la tête humérale dans toutes les amplitudes articulaires. Les muscles sous-épineux et petits ronds, en particulier, retiennent le glissement antérieur de la tête. Par ailleurs, le kinésithérapeute cherche à libérer la mobilité scapulothoracique par relâchement du muscle petit pectoral et par renforcement des muscles grand dentelé et trapèze supérieur. Ce travail doit permettre une bonne orientation de la glène, facteur supplémentaire de stabilité. La troisième phase est, quant à elle, consacrée au renforcement musculaire de la coiffe, notamment par un exercice spécifique anti-luxation, travail en piston par traction rapide dans l'axe de la diaphyse dans différentes positions articulaires. La tonification des faisceaux antérieurs et postérieurs du deltoïde en position de rotation externe, RE2, est aussi recherchée car elle favorise la compression de la tête humérale contre la glène. À l'inverse, l'activation du muscle comme le grand pectoral à forte composante luxante est évitée. La progression s'effectuera en insistant sur le gain en endurance car, en situation de fatigue, les réflexes de protection articulaire se révèlent moins efficaces. Des exercices pliométriques avec halter ou medicine ball, en chaîne ouverte et en chaîne fermée, seront réalisés. Le rééducateur pourra aussi travailler l'épaule selon les diagonales de Kabat, exercice bénéfique tant sur le plan proprioceptif que pour le gain en endurance. Ces techniques permettent de lever l'inhibition qui parfois contraint certains patients à craindre la luxation malgré la chirurgie. Source B. Interman, HINTERMA2N, département orthopédique et traumatologique de Bâle, en Suisse. L'épaule du nageur. Par le docteur C. Fournols, F-O-U-R-N-O-L. S à l'Institut Presport dans le 66. Les épaules, telles deux réacteurs, propulsent le nageur. Chacun de leurs mouvements constitue un véritable défi d'adaptation biomécanique à l'évolution au milieu aquatique. Dans son intervention, le docteur Fournols retrace une étude menée au club de Canet dans le 66 sur 42 nageurs de haut niveau. À raison de 11 entraînements par semaine, ces derniers nagent 14 à 17 km par jour, soit 6 000 à 7500 passages d'épaule complets quotidiens. Ces mouvements, pratiqués à outrance, entraînent une transformation de l'épaule par adaptation progressive articulaire, ligamentaire et musculaire. Sur l'année étudiée, 202 consultations de nageurs ont été répertoriées, dont 89% pour une pathologie de l'épaule, 97% d'instabilité et de tendinopathie, 1% de souffrance vasculaire ou neurologique, 2% de pathologie acromioclaviculaire. L'instabilité d'épaule s'explique par l'utilisation d'amplitudes maximales qui altèrent progressivement capsules et ligaments gléno-huméraux. Les tendinopathies, associées une fois sur deux, prennent leur source dans des sollicitations répétitives et à l'identique en étirement des muscles antagonistes au mouvement. À noter aussi une absence de vascularisation de tous les tendons de la coiffe en abduction, retour aérien, et au niveau de certaines zones du supraépineux et du lombiceps en adduction, fin de la phase aquatique. La paralysie du nerf thoracique long conduit, quant à elle, à un déficit majeur par absence de stabilisation de la scapula. La rotation de la tête du côté opposé à l'épaule associée à une élévation du bras double la longueur entre les deux points fixes rencontrés sur le trajet du nerf, causant ainsi un étirement répétitif. L'arthropathie acromioclaviculaire est générée par l'association du mouvement d'élévation antérieure et d'adduction en crawl, dos crawlé et brasse. Prise en charge du nageur. La prise en charge doit être en premier lieu thérapeutique. Il faut traiter au plus tôt pour éviter qu'une blessure aiguë ne se transforme en lésion chronique. Une consultation hebdomadaire à la piscine dans une salle adaptée est indispensable. Dans les cas aigus, il est nécessaire d'envoyer le nageur en centre afin de programmer des soins, de bénéficier de matériel adapté et de l'extraire de son milieu, entre parenthèses dépendance à l'eau et à l'entraîneur. La présente étude n'a pas relevé de cas de chirurgie. La prise en charge est ensuite participative et explicative. Il s'agit d'éduquer le nageur sur son épaule au plus tôt et de le responsabiliser sur l'importance du suivi des soins, de sa préparation physique et de la prise de conscience de sa technique de nage. En prévention, le sportif doit chercher, avec l'entraîneur, les erreurs dans sa pratique. Il doit éviter les étirements qui aggravent l'instabilité, favoriser ceux adaptés à son profil. Il peut pratiquer des exercices de prévention proprioceptifs et de renforcement musculaire spécifiques sur appareil isocinétique. Toutefois, la meilleure technique ne remplacera jamais l'intégrité anatomique et fonctionnelle nécessaire à l'efficacité biomécanique de l'épaule. C'était dans les kinés actualités du jeudi 10 juillet 2008.